Si l'édition musicale est un secteur d'activité historique, il est aujourd'hui confronté à plusieurs défis, et notamment celui de la transition numérique. Comment pérenniser une activité basée essentiellement sur le support physique? Comment intégrer le digital dans ses axes de développement? Quelle place pour les interprètes? Doit-on être compositeur ou compositrice pour être éditeur ou éditrice? Ce sont autant de questions qui s'imposent à nous lorsque l'on se penche sur la question de l'édition musicale. Pour ce nouvel épisode, nous vous proposons d'aller à la rencontre de deux maisons d'édition aux profils et aux histoires assez variés. Dans un premier temps, nous vous invitons à vous plonger dans les coulisses des illustres éditions Lemoine qui viennent de fêter cette année leurs 250 ans d'existence. Pour en parler, rien de tel que le PDG et héritier de celle-ci, Pierre Lemoine. Notre réflexion se poursuivra avec Misaël Gauchat et Maxime Barthélémy, les deux fondateurs de la maison Ona, qui va bientôt célébrer ses 10 ans. Une historicité totalement différente, mais des convictions tout aussi fortes. Alors, bonjour Pierre, pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Pierre Lemoine, le PDG des éditions Henri Lemoine, depuis 35 ans maintenant. Après des études supérieures d'agronomie en France, d'un doctorat en économie aux États-Unis et un job en tant que consultant interne dans une grosse entreprise américaine, j'ai repris la maison d'édition familiale au départ de la retraite de mon père. Je suis la 7e génération et le 12e membre de la famille Lemoine à diriger cette maison d'édition. Et nous fêtons ainsi, cette année, nos 250 ans. Nous faisons partie aussi de l'association des Enochiens, qui regroupe les entreprises familiales au moins bicentenaires et dont le dirigeant est un descendant direct du fondateur. Il y en a à peu près une cinquantaine dans le monde entier. Et ma relève est assurée, car j'ai 3 fils sur mes 5 enfants qui travaillent avec moi depuis quelques années et qui reprendront le flambeau complètement d'ici 2 ans.
Quel est, pour vous, le métier d'éditeur ?
Alors, j'ai une vision du métier d'éditeur qui tient en 4 mots. Transmission, graphisme, temps et espace. En effet, ma mission est de transmettre dans le monde entier et pour de nombreuses générations suivantes les œuvres des compositeurs que j'édite. Je peux transmettre ces œuvres parce qu'elles sont écrites. C'est cette forme graphique qui nous permet d'utiliser l'imprimerie et puis maintenant les réseaux Internet pour les diffuser le plus largement possible. Une autre spécificité de notre métier et de la composition musicale est le lien qu'il y a entre la partition et l'instrumentiste. En effet, l'œuvre musicale n'existe que si elle est interprétée par un musicien, afin qu'elle puisse être ensuite entendue. C'est une relation tripartite, à la différence de la composition littéraire, pour laquelle il y a un lien direct entre l'écrivain et le lecteur. Donc notre métier est aussi de faire en sorte qu'un maximum de musiciens jouent les œuvres de nos compositeurs et qu'un maximum d'auditeurs entendent celles-ci.
Quelles seraient les 3 qualités ou compétences que vous estimez indispensables pour faire ce métier ?
Comme j'ai défini mon métier en 4 mots, ces 3 mots seront ouverture d'esprit, pugnacité et humilité. Ouverture d'esprit, car il faut sans cesse être prêt à accepter la nouveauté. En effet, notre intérêt est de trouver et d'accompagner la nouvelle originalité de la création musicale, qu'elle nous plaise ou pas. Il faut dire aussi que la plupart de nos compositeurs sont eux-mêmes toujours en recherche, peu se satisfont de l'utilisation d'une même recette. Donc le système de commande aux compositeurs garantit aussi le renouvellement du caractère original des nouvelles œuvres. Pugnacité, car on ne sait jamais à l'avance si une pièce, une méthode, un recueil va marcher et être largement adopté par les instrumentistes, par les auditeurs, et ni pourquoi, après son lancement, elle ne marche pas. Donc il ne faut jamais se décourager et il faut continuer d'éditer, même après plusieurs échecs. Il se peut aussi qu'une pièce qui ne fonctionne pas au début de sa vie devienne un tube. Ensuite, c'est l'humilité. Ça double un petit peu pugnacité, car on doit accepter de se tromper. Ce qui fait un succès, c'est l'acceptation par un public à un moment donné ou par des professeurs de la nouveauté qu'on propose.
Quel est le modèle économique d'une maison d'édition ?
Il n'y en a pas. Il y a autant de modèles économiques d'une maison d'édition qu'il y a de maisons d'édition. En effet, pour une maison comme Lemoine, ce serait 80% de son chiffre d'affaires avec les ventes de partitions, 10% avec les locations de matériel d'orchestre et 10% avec les droits SACEM ou des droits d'exécution et des grands droits. Par contre, pour les éditions Jobert, ça sera 1/3 de vente, 1/3 de location, 1/3 de droits. pour les éditions Combre et Vente de Velle, que je dirige aussi, le chiffre d'affaires est assuré à 100% par les ventes de partitions. Ce sont quand même grâce aux bénéfices obtenus par la vente de partitions que nous pouvons continuer d'investir dans l'édition de nouvelles œuvres composées par de nouveaux talents ou par des compositeurs déjà édités chez nous. Au mieux, l'édition d'une nouvelle œuvre pour le concert, grâce à toutes les aides obtenues auprès du CNM, de la SACEM et de la MMC, ressort à court terme comme une opération neutre.
Quel est votre rapport aux artistes que vous éditez ?
Alors, notre relation avec nos compositeurs, ça peut s'apparenter à une relation d'agent, d'agent artistique. Nous accompagnons chaque compositeur, par exemple, dans la négociation pour ses contrats de commande. Nous lui assurons la livraison à temps de la gravure et de l'impression de ses œuvres pour la création. C'est un point crucial pour qu'il respecte les engagements de son contrat de commande. En plus de le faire nous-mêmes directement, nous l'accompagnons aussi comme soutien logistique dans sa recherche de nouvelles exécutions, car le compositeur est lui-même son meilleur ambassadeur. Nous suivons aussi les séances d'échange et de correction entre le compositeur, le chef, les musiciens, finalement le graveur. Nous assurons aussi que les compositeurs perçoivent les bons montants de droits d'exécution et nous leur versons, nous, chaque année, leur quote-part sur les ventes, les locations ou les droits de synchronisation ou de licence. Mais au fil du temps, j'ai noué surtout des relations extra-professionnelles avec la plupart d'entre eux, voire amicales pour certains, car nous partageons des moments forts ensemble, que ce soit lors du montage d'une création, avec tout le stress qu'il peut y avoir, que pour des après-concerts qui peuvent être vraiment mémorables, avec le soulagement et la fierté d'un triomphe.
Comment est-ce que vous êtes devenu éditeur ?
Comme je vous l'ai dit avant, j'ai quitté mon job de consultant interne aux États-Unis pour revenir en France et reprendre les éditions des parents en retraite de mon père. Mes premières actions ont été des mesures de gestion afin de rationaliser le fonctionnement des éditions parce qu'elles s'étaient un petit peu éparpillées en faisant du négoce, par exemple, pour d'autres éditeurs. J'ai ensuite renouvelé le catalogue pédagogique pour ensuite finalement m'occuper de la gestion des compositeurs de musique pour concert. Ça représente un pari sur le long terme, mais pari qui peut se révéler très payant si un des compositeurs devient le futur Debussy ou le futur Ravel.
Comment vous choisissez les artistes ou les œuvres que vous accompagnez ?
Il y a trois possibilités. La première, c'est qu'il y a des compositeurs dont j'ai hérité, car ils étaient déjà édités et choisis par le directeur artistique avant que je reprenne les éditions. Ou alors c'est des compositeurs qui se trouvaient déjà édités par les maisons que j'ai rachetées. La deuxième possibilité, c'est qu'il y a des compositeurs qui sont parrainés par des compositeurs déjà édités, ou des chefs, ou des solistes internationaux qui sont chefs de collection chez nous. Ils peuvent les dénicher lors de classes, de jurys, de concerts. Ils peuvent avoir eux-mêmes un coup de cœur. Et à ce moment-là, ils nous recommandent. La troisième manière, c'est que je peux avoir un coup de cœur moi-même pour un compositeur que j'entends lors de concerts et que, à ce moment-là, je démarche, entre guillemets, hein, lorsque je vois qu'il n'est pas édité. Je ne démarche pas des compositeurs qui sont déjà édités. En revanche, il y arrive qu'il y en ait qui me démarchent directement pour être édité chez Lemoine.
Quel est le projet dont vous êtes le plus fier, voire le moins fier ?
Je n'ai pas de projet spécifique pour lequel j'aurais des raisons d'être fier, ou pas. Mais en revanche, c'est plus général. Et ce dont je suis le plus fier est que, pour les compositeurs, a priori, on fait le job chez Lemoine. En effet, à part une exception, dont je ne regrette pas le départ, tous les compositeurs que je désire continuer d'éditer restent chez nous, quelle que soit leur renommée et les appels de la concurrence. Et ça, sans avoir signé un contrat de préférence ou d'exclusivité.
Est-ce que vous pourriez nous parler d'une œuvre qui vous a marqué ?
Non, en général, je vais quand même à tous les concerts de création, tout au moins à Paris. Une anecdote, après la création de la pièce B de Bruno Mantovani pour 7 violoncelles à la Fondation Louis Vuitton, j'étais tellement ému par la solennité et la gravité de cette pièce que j'ai dit que je la verrais bien pour mon enterrement.
Vous écoutiez quoi quand vous étiez petit ?
Oh, ça, vous ne devez pas connaître. C'était les coffrets du Radar Digest, qui regroupaient des grands classiques joués par des grands chefs avec des grands orchestres. À l'époque, c'était encore des 33 tours, des vinyles. Donc, j'ai été plutôt bercé avec les symphonies de Beethoven, les sonates de Mozart et les inventions de Bach. Puis plus tard, ce fut les Pink Floyd, les Rolling Stones, Fleetwood Mac, Supertramp. J'ai jamais été très Beatles.
Que conseilleriez-vous à un artiste qui cherche un éditeur ?
De les contacter directement, avec un échantillon de partitions, d'enregistrements, et surtout aussi le planning de futures commandes, et aussi de chercher un parrainage.
Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui voudrait faire ce métier ?
Oh, ça va être très court. C'est de ne pas être, ou vouloir être, un compositeur.
Que d'histoire pour les éditions Henri Lemoine. Ce qui transparaît fortement dans ce témoignage, c'est la rigueur qu'impose l'héritage. L'édition musicale est avant tout et surtout une question de savoir-faire et de transmission. Mais alors, qu'en est-il pour une structure telle que Maison Ona ? La jeunesse est-elle un frein ou un accélérateur d'innovation ? La situation doit-elle se résumer à cette simple dichotomie ? Rendez-vous au prochain épisode.